France Inter. Le 5-7.
5h53, voici la bibliothèque des ados et celle qui en remplit les étagères. Bonjour Mao de Bittler.
Bonjour Mathilde.
Ce matin, cette saison, une sélection frissonnante.
Oui, pour commencer, je vous propose ce roman suédois intitulé Fleurs de peste de Mats Strandberg. Jetons un œil à la couverture de l'illustratrice Elin Sandström. Ce qui accroche le regard, ce sont les trois masques au bec recourbé comme des oiseaux inquiétants, des masques de peste. Pendant les épidémies, on remplissait le bec d'herbes aromatiques ou d'une éponge de vinaigre pour se prémunir contre la maladie et ses remugles. Au premier plan, il y a la silhouette d'une jeune fille devant une grande demeure et à l'arrière, la lune, grande, pleine, ceinte d'un halo étoilé et ornée d'une toute petite croix chrétienne. Vous avez tous les éléments de l'histoire.
Et comment s'imbrique-t-il ?
Nous sommes en 1710, à l'extérieur la Suède est en guerre, à l'intérieur un autre fléau se propage dans la capitale, c'est la peste. Magdalena et sa famille aisée se pensent hors d'atteinte dans les beaux quartiers de Stockholm, mais même les riches peuvent tomber malades. En quelques jours, l'épidémie emporte sa mère. Alors pour protéger Magdalena et sa petite sœur Ebba, leur père décide de les envoyer à la campagne, chez leur tante, une veuve qui élève son beau-fils au château de Svartdam. À leur arrivée, les filles sont saisies par la ressemblance avec leur mère. Ressemblance qui s'arrête au physique.
Elles n'ont pas le même caractère ?
Non, tante Katharina est une femme dure et très pieuse. Elle ne fait montre d'aucune tendresse, ni pour sa sœur défunte, ni pour ses nièces, qui ont interdiction de faire du bruit et de sortir, sauf pour aller à la messe. Leurs livres sont confisqués, seule la Bible a droit de citer, et si elles s'avisent de désobéir, le châtiment promet d'être sévère. Dans la triste demeure, perchée sur une colline loin de tout, la petite Ebba dépérit et Magdalena suffoque.
Lorsque je me réveillais, les rats grattaient dans leur galerie secrète. On entendait des cris glaçants provenant de la forêt, des hurlements qui ne semblaient pas humains. Parfois, j'étais certaine que quelque chose était entré dans la chambre, quelque chose qui restait tapis dans l'obscurité et m'observait. « Maman, c'est toi ?» La seule réponse venait des vents de l'automne, qui hurlaient leur chagrin le long des murs et soupiraient contre la fenêtre, transformant la cheminée en une gorge gémissante. Le château de Svartdam était comme une créature vivante qui nous avait engloutis, ma sœur et moi.
Mats Strandberg excelle à camper une atmosphère lugubre et menaçante dans ce huis clos régi par le rigorisme dévot de Katharina. Huis clos énigmatique aussi, le manoir abrite des secrets qui excitent la curiosité de Magdalena malgré son chagrin. À quoi ressemble le baron Axel, le beau-fils de sa tante ? Très malade, il ne sort pas de sa chambre. Pour en savoir plus, il va bien falloir enfreindre les lois de la maîtresse de Svartdam. Et rien ne prépare l'adolescente à ce qu'elle va découvrir. Un roman plein de mystères, à l'ambiance gothique qui ravira les amateurs de fantastique.
Ça s'appelle Fleurs de peste de Mats Strandberg et c'est publié à l'École des loisirs. Après le manoir gothique, Mao, vous nous emmenez dans un cimetière.
Oui, probablement
de
le
mieux en mieux.
Plus... voilà, dans le sinistre. Probablement le plus célèbre de Paris, ce cimetière, le Père Lachaise, où séjournent nombre de célèbres trépassés. C'est le lieu qu'a choisi Antonio da Silva pour y installer son génial roman Les Oublieux, paru en mars dernier et dont je n'avais pas eu le temps de vous parler, c'est l'occasion. Et ça commence très fort. Billy, 16 ans, rend son dernier souffle, poignardé par un voyou pour qui il travaillait. En passant de l'autre côté, Billy découvre déjà qu'il y a un autre côté. Le cimetière du Père Lachaise est peuplé des âmes de ses habitants qui occupent leur éternité comme elles peuvent.
Que font-elles ces âmes ?
Eh bien, on peut y croiser La Fontaine, Molière, Devisan dans les allées, Jim Morrison, Sarah Bernard, Modigliani, Balzac ou encore Rosa Bonheur. Mais de l'autre côté de la muraille, il y a des âmes damnées. Elles n'ont plus grand-chose d'humain et pourchassent les défunts tout frais, encore pleins de souvenirs dont elles se repaissent. Ces créatures, ce sont les oublieux des morts qui ont perdu toute trace de leur vie passée, dévorées par la haine et le ressentiment. Depuis la mort de Billy, les oublieux sont particulièrement agressifs. Cela serait-il lié au cadran d'or qu'il a dérobé à ses acolytes ? En tout cas, chez les vivants aussi, on convoite cet artefact et tous les moyens sont bons, même les plus brutaux. La sœur adorée de Billy est peut-être en danger. Mais par-delà la tombe, que peuvent les morts pour les vivants ? Antonio da Silva nous entraîne dans une course haletante, foisonnante à travers Paris, à la découverte d'un au-delà bien loin du paradis. C'est sombre, violent parfois, mais l'obscurité côtoie la fantaisie et la douceur. Douceur des liens, douceur des souvenirs qui réchauffe les âmes de ceux qui restent et de ceux qui partent.
Les Oublieux d'Antonio da Silva, c'est publié aux éditions du Rouergue. On va mettre ses références sur franceinter.fr à la page de votre chronique Mao, la bibliothèque des ados.